En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire votre livre. Et je crois qu'en fait, la question centrale qui traverse votre ouvrage est en fait de déterminer s'il est possible de penser l'homme et le social dans leurs spécificités, c'est-à-dire comme des entités autonomes, en les isolant de ce qui n'est pas eux, à savoir le naturel. Autrement dit, le social peut-il se suffire à lui-même? Et ce que j'ai particulièrement apprécié dans votre ouvrage, c'est la façon dont vous répondez à cette question, notamment à travers une relecture et une étude des grands classiques des sciences sociales. En effet, la fin de Grand Partage suit un plan très clair et didactique. L'ouvrage est découpé en 4 chapitres, comme autant de moments décisifs, autour de 4 géants: Émile Durkheim, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss et Philippe Descola, même si d'autres auteurs sont également cités. Et justement, dans la droite ligne de « Par-delà nature et culture » de Philippe Descola, votre ouvrage consacre ou semble consacrer la fin de l'opposition et plus encore de la modernité entre nature et culture. Car en réalité, les sciences sociales n'ont jamais... n'ont pas dans leur ensemble rompu avec ces distinctions. Comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation, cette distinction entre nature et culture n'est pas universelle, car cette opposition ne tient pas dans d'autres sociétés où justement le non-humain, les choses ou encore les animaux par exemple ne sont pas que des animaux de la même façon que l'on considère en Occident l'homme comme étant un être exceptionnel, à part entière. Et d'ailleurs, même en Occident, vous l'avez dit, nous arrivons à la fin de cette exception humaine. Donc pour autant, en fait, une première question, l'idée de nature doit-il être définitivement abandonnée? Ne peut-on pas dire oui, la nature, mais dans un sens minimaliste qui reste à préciser? Donc, en effet, à travers un examen historique et épistémologique sur l'origine de ce grand partage et sur son évolution, dans une démarche à mi-chemin entre philosophie et sciences sociales, vous montrez que le projet scientifique, la genèse et l'histoire de la sociologie et de l'anthropologie est intrinsèquement lié à la nature. Donc, je vous cite, car elles se sont en partie construites dans un espace théorique situé entre la nature et la société. Donc, il ressort de votre travail que le social ne peut se penser sans la nature, même si ce fut d'abord dans l'opposition à celle-ci. Ainsi, à l'instar des travaux de Bruno Latour sur l'écologie politique et l'idée de nature formulée dans divers textes et notamment dans les livres qu'il a consacrés à ces questions politiques de la nature, votre ouvrage « La fin d'un grand partage » semble suggérer que la modernité, c'est-à-dire la séparation occidentale entre l'homme ou la société et la nature, bien que ce ne soit que maintenant, à l'ère de la crise écologique, n'a jamais existé. Si tel est le cas, alors, par quoi remplacer cet imaginaire de la modernité à travers le couple moderne, nature et société? Par ailleurs, vous mettez ainsi en valeur dans votre ouvrage un paradoxe constituant des sciences sociales d'un côté, ceux-ci ont cherché à définir l'essence du social en l'isolant du domaine de la nature, réservé aux sciences naturelles. De notre côté, et c'est tout le paradoxe, elles sont systématiquement conduites à montrer que les hommes sont des êtres sociaux, non pas en dépit, je vous cite, du fait qu'ils sont affaires à la nature, mais par cela même. Donc, vous dressez une histoire des sciences sociales qui souligne la manière dont celles-ci ont intégré la nature dans leur discours et les contradictions auxquelles elles ont abouti en cherchant à définir le social comme une entité autonome. Donc, pourquoi alors continuer à parler de nature et de culture alors même qu'il a été précisé que ces termes ne renvoient à aucune réalité ontologique? Pourquoi donc la conscience humaine tient-elle tant à l'idée de nature? Qu'est-ce qui, chez l'homme aujourd'hui, le pousse à être de plus en plus attaché à la nature? J'ai une dernière question. Donc, dans l'introduction de votre ouvrage, vous dites que l'inscription des sociétés humaines dans la nature fait aujourd'hui l'objet d'un intérêt renouvelé, provoqué par l'inquiétude grandissante concernant l'état de l'environnement et nos capacités à en prendre soin. À votre avis, en opposition aux filières longues, est-ce que selon vous la pratique des circuits courts en tant que mode de production et de vente, comme les AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, qui entraîne une certaine écologisation pratique de production, en ce sens qu'ils sollicitent dans leur démarche moins d'intrants, moins de produits chimiques, moins d'emballage, de transport, et dont également l'objectif est la production et la protection de la nature, de l'environnement et de la biodiversité, ne serait pas une nouvelle façon de repenser l'homme dans la nature? Autrement dit, les circuits courts contribuent-ils à la naturalisation ou à la renaturalisation de l'homme? Ou doit-on nécessairement renoncer à l'idée de nature pour faire de l'écologie politique? Merci.